السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc hier pour les frères qui étaient pas là et pour les frères qui étaient là aussi, on avait commencé l'explication d'un poème dans l'Aqida qui s'appelle Al-Ha'iyya d'un grand imam de la communauté, qui est l'imam Ibn Abi Dawood rahimahullah ta'ala. On avait dit que l'imam Ibn Abi Daoud, c'était le fils de qui? De Abu Daoud. Abu Daoud, qui est sahib sunan, celui qui a écrit les sunan, qui sont connus comme sunan Abi Daoud, qui est un de ce qu'on appelle les six livres de la sunna. D'accord? Les ulama, ils ont différentes terminologies par rapport à ça. Ils ont le kutub sita, ils ont le kutub tis'a, les six livres, les neuf livres. Hein? On ne va pas s'attarder dans ce genre de terminologie-là. Walakin, il fait partie d'un des six livres, parmi lesquels, ou qui sont Bukhari, un muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa, Ibn Majah. D'accord? Donc, c'est un grand imam de la communauté, fils d'un grand imam de la communauté, et il était d'ailleurs l'élève de son propre père. Et on passe à tarder à répéter tout ce qu'on a dit, walakin, on avait dit qu'une des manières de préserver la science, c'était de quoi de la compiler. D'accord? Et surtout ce qui concerne la correction de la croyance. Et donc l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah, il a rapporté la croyance des gens de la sunna du consensus dans un poème qui s'appelle Al-Ha'iyya. Pourquoi Al-Ha'iyya? Parce que chaque ligne ou chaque vers de poésie se termine en Ha. Qui se rappelle, on avait dit que ces deux cours, donc le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui, on allait juste faire combien de lignes?
Une
ligne. D'accord, on a commencé, on va finir, on va essayer de finir aujourd'hui, Inch'Allah, cette première ligne. Qui la connaît par cœur en arabe? Fadal. Quelqu'un d'autre? Fadal. Voilà. Hassan, quelqu'un d'autre? Non, Fadal. Hassan, Zaklar, quelqu'un en français? Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe et qui veut la dire en français?
Je crois, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée et ne suis pas les innovations et tu auras le succès.
Naam, ahsan. Donc d'accord, on s'attachait à étudier ça. Attache-toi au câble d'Allah, tamassak bihablillahi wa tabi'il huda, et suis la guidance. On avait expliqué c'est quoi le fait de s'attacher. On avait expliqué c'était quoi le câble d'Allah. Hein? Et suis la guidance. Et après c'est quoi? Et ne sois pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse. Et peut-être atteindras-tu le succès. D'accord? Je vous avais demandé de me rappeler à quel point on était arrivé, c'était Sourate Zalzala. Pourquoi la cité Sourate Zalzala? Personne ne sait? Il a cité des preuves, Bilachak. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve du Coran qu'il a cité. Une preuve sur quoi? Allez, je vous aide un peu. On a parlé de certaines catégories de gens. Combien étaient ces catégories de gens? Pourquoi?
C'est trois, non? Trois catégories.
Rajoute une.
Quatre.
Hein? Quatre. C'est qui ces quatre catégories de gens?
Ah oui, les quatre bienheureux.
Les quatre qui ont été comblés de faveur par Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à quel verset du Coran? Surat Al-Fatiha. C'est quel verset? Ihdina as-sirata mustaqim. Lazina an'amta alayhim, ceux que tu as comblé de tes faveurs. C'est qui ces gens-là? Est-ce qu'on le sait dans le surat al-Fatiha? Ou ça a été dit de manière générale? Ça a été dit de manière générale. Où est-ce que ça a été spécifié? Surat al-Nisa. Quel verset? T'es pas loin. Non. J'ai un chiffre en tête, celui que j'ai il est correct. Je viens de vérifier. 69. D'accord? Et c'est quoi ces quatre catégories? L'anbiya, ma'alladina an'am Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Donc c'est qui les prophètes? Les véridiques, les martyrs et les vertueux. D'accord? Ça c'est clair? Donc on parlait de ça. Et puis on a parlé d'un point important, on a parlé du fait que on a expliqué c'était qui chaque catégorie Et puis on a parlé de c'est qui l'abd salih. C'est par rapport à quelle catégorie, la quatrième. Un talib ilm, il doit avoir un esprit de synthèse. Je sais qu'on a terminé un peu tard, etc. L'idéal serait été de faire un résumé de notes de ce qu'on a dit pour ceux qui ont pris des notes. Si t'as pas pris de notes, c'est pas résumé. D'accord? Mais c'est important d'avoir cet esprit de synthèse. De savoir de quoi on parle. On parle de l'ha'iyya, on parle de la croyance, on parle de la correction de la croyance. D'accord? Il a cité un vers de poésie. Il explique partie par partie. Il montre en fait, le cheikh Z, qui est un cheikh contemporain qui explique cette ha'iyya, que l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a basé ses mots dans sa poésie sur des preuves, des textes du Coran, de la Sunna. Parce que telle est la méthodologie des gens de la Sunna, de baser ce qu'ils disent et de baser leurs croyances sur des preuves. D'accord? Donc, il avait parlé de Salihoun. Et on avait dit que le serviteur ne peut être vertueux que s'il, la phrase, que s'il, illa ila jama'a bayna amrayn, que s'il regroupe deux choses. Quelles sont ces choses? Là, vous confondez avec l'ibada. C'est les deux conditions. Moi, je dis comment la yakun l'abd salihan illa jama'a bayna amrayn. Non. L'ilm ou l'amal. L'ilm ou l'amal, on a dit. La science et la mise en pratique. Alors, quelqu'un ne peut être vertueux que s'il a regroupé deux choses. On avait dit que c'est qui est le guide de l'autre. Est-ce que c'est l'action qui est le guide de la science ou la science qui est le guide de l'action? Voilà, c'est la science qui est le guide de l'action qui la suit. On avait dit que c'est la première chose qui a été commandée au prophète A.S. Le premier verset qui a été révélé au prophète A.S. c'est quoi? Iqra. D'accord? On avait donné notre preuve du Coran. Fa'alam, on termine le verset. Et quoi? Wastaghfir li dhanbik. C'est quel verset? Sourate Muhammad. Qui a dit 17? 19. De mémoire, Allah, tu vérifies, mais 19. D'accord? Donc ici, quelle est la. Comment est-ce qu'on prend ce verset de Sourate Muhammad qu'il faut commencer par la science? Fa'alam, le verset commence par sache. Et d'ailleurs, le même Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, il a dit quoi? Il a dit Ba'ak, chapitre Al-ilm, qabel, qawli, wal-amal, la science avant la parole et l'action. Et puis, il a utilisé quel verset? Comme preuve? Celui-ci. Il a dit Fa'bada'a bil-ilm, qabel, qawli, wal-amal, il a donc commencé par la science avant la parole et l'action. D'accord? Pourquoi je dis tout ça? Ben, c'est pour que on situe le contexte de ce qui va être dit aujourd'hui. On y arrive petit à petit et on arrive à Surat Zalzala. On a parlé de l'ilm et l'amal. Évidemment, la science et la mise en pratique, il y a différents genres de personnes par rapport à cette science et cette mise en pratique. Il y a les gens qui sont les vertueux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regroupent entre la science et la mise en pratique, on est d'accord. Et puis il y a des gens qui ont la science mais qui ne mettent pas en pratique. De notre communauté, parmi les musulmans, ils ont en cela une ressemblance en qui? Dites-le nom en arabe. Al-Yahoud. Et ceux qui n'ont pas de science, mais mettent en pratique, par une côté, ils ont une ressemblance en cela au Nasara. D'accord? Et c'est à ça qu'on est arrivé. On est arrivé quand on a parlé d'Al-Yahoud. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Al-Yahoud? Ils ont reçu les preuves. Ils ont reçu des messagers les uns après les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les messagers? Ils ont démenti. Ils ont traité de mensongers, etc. Et ils les ont même tués. On avait dit Kadhabou al-Rusul wa qataluhum. Fastahaqou mada? Et ils ont donc droit à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous avais rapporté une parole de Salaf qui le disait, les plus prédécesseurs, que toute personne, ou tout savant de notre communauté, tout savant qui ne met pas sa science en pratique, il aura donc quoi? Ressembler au Yahoud. Et tout personne parmi nos servites, nos adorateurs purs, l'Ubbad, et qui est corrompu, man fasada min ubbadina, fa fihi shabahun min an-nasara. Il aura en cela ressemblé aux chrétiens. Donc vous voyez le danger de deux choses. De faire sans science, et danger, un autre danger, c'est d'avoir la science et de ne pas faire. Donc nous, qu'on aspire tous à être des adorateurs vertueux, des serviteurs vertueux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on fasse partie de ces gens-là, hein, et qu'on essaie d'acquérir la science, parce que la science, c'est pas, on n'est pas des soufis, quoi. On n'est pas, on n'attend pas que ça vienne, hein. Non, la science, ça s'acquiert. Il y a du travail, il y a des bases, il y a une méthodologie. D'accord? Quand un talib ilmi commence, c'est comme le cheikh ne lui donne pas, tiens, va étudier le Bukhari. Hein, il commence par l'Arba al-Nawawiyya, par exemple. Dans l'Aqidah, il va commencer par quoi? Sur le Talata. Et puis, quand l'Arba, les quatre règles, c'est des livres, tous des livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab, Rahimahullah al-Tawhid. Et après quoi, l'Usul Sita, par exemple. D'accord? Hein? Des motuls comme quoi, on a marqué l'islam, les annulatifs de l'islam, et puis Kitab al-Tawhid, et comme ça. Il y a ta darraj talib al-ilm. Tu as une échelle, en fait, si tu veux. Et les ulama, ils ont écrit des livres entiers sur la méthodologie. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Hein? Et un des premiers livres que j'avais lu quand j'ai appris l'arabe, c'était quoi? C'était Kitab al-Ilm sur l'Uthaymin. Kitab al-Ilm sur l'Uthaymin, c'est un livre qui est consacré à la science, comment apprendre la science et tout ce qui tourne autour de la science. Et la moitié du livre, c'est des questions-réponses, justement. Kitab al-Ilm, retenez ce titre, Kitab al-Ilm, le livre de la science de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que tu te construis bien, comme il faut. Et il y a un verset du Coran qui dit وَلَكِنْ كُونُ رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ الْعَالِمْ رَبَّانِي. L'ulama, certains salafs l'ont expliqué comme étant qui? Celui qui apprend aux gens c'est rare le masail qabla kibariha. Et ça c'est une méthodologie de nos savants de la sunna. C'est qu'ils apprennent aux gens les petites choses avant les grandes. وَلَكِنْ نَتْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَا هَا مِنْ الْأَبْوَا بِهَا. Rentrer dans les maisons par leurs portes. On ne rentre pas par le toit. D'accord? Ça, c'est un verset du Coran. Hein? Rentrer dans les demeures par leur porte. D'accord? Donc ici, on est arrivé au point sur l'ilm sans l'amal. La science sans la mise en pratique. Et c'est pour ça qu'il a cité le verset de Sourate Zalzal. Je vous répète le contexte. Quand il a dit que bal wa qataluhum, mais de plus ils ont tué les messagers, ça on a déjà dit. Kama qassa Allah khabaran fil Qur'an al-Karim, comme Allah l'a cité, nous l'a raconté, nous l'a narré dans le Coran, nous l'a dit dans le Coran. Faman tashabbaha bihi min hadhihi al-umma, donc vous allez voir pourquoi on a cité le verset de sourate Zalzal. Il a dit donc toute personne qui le ressemble parmi les gens de notre communauté, parmi les musulmans, c'est-à-dire, il dit, ay alima walam ya'mal, c'est-à-dire qu'il sait mais il ne met pas en pratique, istahaqqa min al-'adabi, il aura mérité en termes de châtiment, nasibahu biqadri ma jana, proportionnellement au crime qu'il aura commis, à ce qu'il aura commis. Liqaulillahi ta'ala, et ce, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yadhlimu rabbuka, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Surat al-Kahf, verset 49. Vous voyez, on arrive à Surat Zalzala ici. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Chacun, il rend en fonction de ce qu'il a commis. Puis il a dit un autre verset. Man ya'mal su'an yujza bih, wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Surat Nisa, verset 123. Et puis maintenant, on arrive à quoi? وقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. Maintenant on peut commencer le cours. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la traduction du sens de la parole d'Allah, quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Surat al-Zalzala, verset 7 et 8. Maintenant on reprend le cours. Il dit le cheikh, man amila min duni ilmin بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم وشهواتهم واتبعوا الهوى وصارت عبادتهم ضائعة هباء منثورا كما قال الله تعالى عن الكافرين وهم منهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا يقيم الله لهم وزنا وإن تعبدوا بأنواع من القربات سواء يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام حياته أو بعد مماته إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة كل من عبد الله بجهل وعبد بغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فهم من أهل الضلال وإن مات على ذلك فهو من أهل النار وما ذلك إلا لأنه كفر بآخر رسول وأعظم رسول أرسله الله عز وجل، وكتب الله عز وجل أن تكون رسالة عامة شاملة لا يسع أحد الخروج عنها أبدا، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Qu'est-ce que Cheikh Zayd il dit? S'il continue son explication de la Ha'iyya, il dit: et quiconque pratique sans science, mais de plus avec ignorance, parmi les gens de cette communauté, aura alors imité, le nom en arabe, qui? Je répète la phrase. Je répète. Et quiconque pratique sans science, mais de plus avec ignorance, parmi les gens de cette communauté, aura alors imité Al-Nasara, qui ont délaissé le livre qu'Allah a révélé, et se sont occupés avec leur plaisir et leur désir, et ont suivi la passion, et donc leur adoration est perdue et réduite en poussière éparpillée. Comme Allah le Très-Haut a dit au sujet des mécréants, ils font partie d'eux, ce dont la traduction du sens est: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Vous voyez l'importance d'être sur l'islam. Hein? C'est que toute personne, quelque action qu'elle fasse, si elle n'est pas sur l'islam, c'est quoi? Hada manfou. En poussière éparpillée. Wal'aïdou billah. Surat al-Furqan ici, verset 23. C'est-à-dire que Allah ne leur a pas fait grand cas. Et c'est même s'ils ont fait différents types d'actes d'adoration, que cela soit le jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, fut envoyé, ou durant sa vie, ou après sa mort. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et jusqu'au jour de la résurrection. Quiconque parmi les Yahouds et les Nasara adore Allah avec ignorance, et adore Allah avec autre chose que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait alors partie des égarés, et s'il meurt dans cet état, il fait alors partie des gens de l'enfer. Et cela n'est qu'en raison du fait qu'il a mécru en le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager le plus important qu'Allah le Très-Haut ait envoyé. Et Allah le Très-Haut a écrit que son message soit général et global. Et il n'est permis à personne d'en sortir. Comme Allah l'a dit, selon la traduction du sens est: dis ô homme, avec un grand H, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Surat al-A'raf, verset 158. Et le cheikh ici, il dit: kalimatun nas. Pourquoi il dit nas ici? Par rapport au verset, comment قل يا أيها الناس. كلمة الناس تشمل جميع الأناس من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم من ملل الكفر وطوائفهم جميعا. D'accord. Donc Cheikh Obaid al-Jabiri hafidhahullah, dans Usul Talata, il a une belle explication sur le mot nas et qui rentre dans le mot nas. Est-ce que les hommes, les djinns et les hommes, etc. Il rapporte des preuves par rapport à ça. On l'a traduit complètement sur notre site. Revenez à ça, spfbirmingham.com. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Il a dit que وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث لقد رابورتي dans l'authentique de مسلم كتاب الإيمان. Dire c'est quel chapitre كتاب الإيمان dans le مسلم. Hein? Dis, faut pas avoir peur, j'ai entendu la bonne réponse. Le premier. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est-à-dire, il dit le cheikh ici, et le mot homme, qu'est-ce qu'il englobe? Tous les êtres humains, les musulmans, et les juifs, et les chrétiens, et les zoroastriens, le majus, et les idolâtres, et toutes les autres religions de mécréance et ces groupes. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un hadith que je vous ai dit qui est rapporté dans le muslim, kitab al-iman, chapitre de la foi, ou livre de la foi, ce qui est un kitab, et puis dans le kitab, il y a quoi? Des abouab. Si vous voulez, vous avez un chapitre et des sous-chapitres, par exemple, d'accord? Dire, quand les ulama, vous faites un charh d'un livre comme ça avec les ulama, ils vous expliquent d'où vient le mot kitab, pourquoi ça s'appelle kitab, pourquoi ça s'appelle un bab, etc. Hein? Est-ce que vous savez d'où vient le mot kitab? Quand on dit katibat al-khayl, un groupe de chevaux, hein, parce que c'est un groupe, ça regroupe. Quand tu écris, en fait, tu regroupes des choses. Donc un kitab, c'est quelque chose qui regroupe des choses. D'accord? Dans le hadith du prophète, Par celui qui détient mon âme dans sa main, n'entendra à mon sujet un juif ou un chrétien de cette communauté, puis meurt sans avoir cru en ce que avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. Regardez le hadith. Rapporté par Muslim dans son authentique livre de la foi, écoutez le titre du chapitre, chapitre de l'obligation de croire au message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tous, et l'abrogation de toutes les religions par sa religion. Donc, Cheikh, il dit, فَمَنْ يَدَّعِ بِأَنَّهُ عَلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ وَدَعْوَاهُ لَا تَنْفَعُهُ وَلَوْ عَبَرَ اللَّهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَا حَظَّ لَهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُقَالُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى وَحْدَةِ الْأَدْيَانِ وَاجْتِمَاعِ الْأَدْيَانِ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ فِي مُحَارَبَةِ الْإِلْحَادِ فَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ وَرِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ بل الإسلام وحده هو الذي يحارب الباطل ويرده ويجاهد المبطلين ويأمر بجهادهم لا اليهودية المحرفة ولا النصرانية أو المحرفة ولا النصرانية المحرفة أو المحرفة. Donc qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Celui donc qui prétend être sur l'Yahoudia ou en Nasrania et ne croit pas au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est alors un menteur dans sa prétention. Et sa prétention ne lui sera utile en rien. Et c'est même s'il adore Allah nuit et jour. Il n'aura aucune part de la miséricorde d'Allah s'il meurt en n'ayant pas cru en ceux avec lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé. Et ce qui est dit quant à l'appel à l'unité de religion. On entend ce genre de da'wah, hein, l'appel à l'unité de religion. D'ailleurs, Cheikh Rabi, Hafidallah et les autres mashayikh, ils ont réfuté Ali Hassan Halabi sur des masaïl comme ça. Parce qu'il y a une risala qui était écrite, Risalat Amman, qui s'appelle, et Ali Hassan avait dit du bien de cette, il avait défendu cette lettre, or cette lettre l'appelle à Wahdat al-Adiyan. Et Adnan Ar'our, qui est un muqtadi connu aussi, que Cheikh Rabi a réfuté d'autres, hein, dans une chaîne satellitaire, il avait dit des paroles qui vont dans le sens de Wahdat al-Adiyan, etc. Mais alhamdoulilah, les lions de la sunna sont là pour clarifier les choses. Wallillahi alhamd. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Il a dit, et ce qu'il dit quant à l'appel à l'unité de religion et au rassemblement des religions côte à côte dans le combat contre l'athéisme est une parole fausse. Et une apostasie faisant sortir de l'islam. D'accord? Retournez au quatrième annulatif parmi les 10 que le cheikh Mohammed al-Wahhabi l'a cité, rahimahullah ta'ala. On l'a traduit aussi sur notre site, c'était le dernier cours qu'on a fait chez nous à la mosquée là-bas. Il est en PDF, il est en note, il est en cours, en audio aussi, de cheikh Mohammed Bezmoul. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? De plus, seul l'islam combat le faux. Et le réfute et combat les gens du faux et des passions et ordonne de les combattre, pas al-Yahoudiya falsifié ni al-Nasraniya falsifié. Et puis cheikh dit, rahimallah, al-Qa'il, man fasada min ulama'ina, vous connaissez cette parole maintenant, faqad, fafihi shabahun min al-Yahoud. Wa man fasada min ubbadina, fafihi shabahun min al-Nasara. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit, c'est une parole à laquelle j'ai déjà fait référence, celui qui est corrompu parmi nos savants a une ressemblance au Yahoud. Et celui qui est corrompu parmi nos adorateurs a une ressemblance au Nasara. Maintenant, vous pouvez expliquer à quelqu'un pourquoi. On sait la raison, d'accord? Cette parole, elle est citée par Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, d'après Soufiane ibn Uyayna. Dans le hadith, wa fil hadith, wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Ay, wa minhum fima tashabbaha bihim fi. Sawa'un fi shirkin ou fi bida'in mudillatin ou ghayri dhalika mimma huwa min af'al ad-dallin. Wa idha kana al-amru kama 'alimt فإن المنعم عليهم هم الذين تمسكوا بحبل الله الذي بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر به إذ قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى وقوله فدا بختر من ça. Donc vous voyez ici, on a fini, attache-toi au câble d'Allah. Regardez les ulama. Encore le cheikh il a dit que c'est une explication résumée. D'accord? Est-ce que nous on aurait pu comprendre ça comme ça? تمسك بحبل الله وتبع الهدى ها اسكو راه تفهم فغلين دونك لامبورطون دو ريفينير علماء شيخ يلدي اي دون لو حديث celui qui imite un peuple fait alors partie de et il est rapporté par Abu Daoud dans As-Sunan, vous connaissez ce livre maintenant, dans le livre de l'habillement et sa formulation et dans d'autres livres. Il est au jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa Al-Ghalil. C'est-à-dire qu'il fait partie de dans ce quoi il les a imités. Attention, qu'il dit, ah, bah, c'est un khlas, c'est un kafir, c'est un. Ah, attention. Mais la compréhension des textes, revenir au ulama pour la compréhension des textes. Regardez comme le shir est précis, il dit, c'est-à-dire qu'il fait partie d'eux dans ce en quoi il les a imités. Que cela soit dans l'association, ou dans des innovations religieuses, qui égarent, ou dans toute autre chose parmi les actions des égarés. Et comme l'affaire est comme tu sais, ceux qui sont comblés de faveur sont, non, vous pouvez répondre, ceux qui se sont attachés au câble d'Allah, au sujet duquel l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé par l'ordre de s'y attacher lorsqu'il a dit attache-toi au câble d'Allah et suis la guidance. Maintenant, il va s'attacher à expliquer c'est quoi et suis la guidance. Il dit وقوله واتبع الهدى منتزع من قول الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقد أمر الله عز وجل باتباع الهدى واتباع دين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليهم كما مضى وقد قسم العلماء العلم إلى أقسام. Donc le cheikh dit, et la parole du cheikh, de l'auteur de la Haïya qui est Ibn Abi Daoud, mort en quelle année? Né en quelle année? 230. Combien d'années il a vécu donc? Et sa parole essuie la guidance. Cela est pris de la parole d'Allah dans la traduction du sens est, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelques répulsions qu'en aient les associateurs. Soit Tawbah verset 33. Allah le Très-Haut a ordonné de suivre la guidance et de suivre la vérité. Vous avez entendu le mot ici, c'est quoi? Il a ordonné. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance est la science bénéfique et la religion de vérité est l'action vertueuse. Et regrouper la science bénéfique et l'action vertueuse est la voie de qui? De ceux qui ont, sont comblés de faveurs. Comme nous l'avons vu précédemment. Et les savants ont divisé la science en catégories. D'accord? C'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit, et je l'ai répété dans beaucoup de mes cours, c'est que le matin, après le fajr, quand tu as pris le fajr, il y a une dua que tu fais. C'est quoi? C'est Allahumma inni. Vas-y, tu veux le dire? Et quoi? Et quoi? Voilà. On ne va pas faire l'explication pourquoi. Tu commences ta journée en disant cette dua-là. C'est quoi? C'est que tu demandes à Allah Azza wa Jalla la science. Comment?
Bénéfique.
Donc on comprend qu'il y a différents types de science. Et une bonne provision. D'accord? Et une action vertueuse. Ou dans notre riwaya, une action acceptée. Amal al-mutaqabbala. D'accord? Et regardez ce qu'il va dire le shir ici. Il a dit que les ulama, ils ont divisé la science en catégories. Première catégorie. علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه هو العلم بشرع الله عز وجل والعمل به جملة وتفصيلا هذا العلم جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعددات منها قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن قول الحق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب لا يستويان ومنها قول الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فالعالم مبصر والجاهل بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسي والجاهل لا يبصر الطريق المعنوي التي تفضي بسالكها إلى رضا الله تبارك وتعالى ودار كرامته وهذه الآيات الكريمات فيها مدح للعلم والعلماء وفيها ذم للجهل والجاهلين. Essayez de retenir les catégories. Encore une fois, cet esprit de synthèse, on ne veut pas de mémoriser par cœur, mais essayez au moins de retenir. C'est la première science, c'est une science louable. Et la personne qui la détient est récompensée. C'est quelle science? La science de la religion d'Allah le Très-Haut et sa mise en application en général et en détail. Vous avez encore une fois la notion de quoi? De amal, de mise en pratique. Les versets coraniques et les hadiths prophétiques font l'éloge de cette science et de ceux qui la portent, et ce dans de nombreux versets. Parmi eux, la parole d'Allah dans la traduction du sens est, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Surat Fatir, verset 28. Dershul Uthaymeen dans Sharh Kitab Tawhid, il explique le khashia en langue arabe, par la peur ou la crainte qui est basée sur l'ilm, sur la science. Surat Fatir, verset 28. Et parmi eux, sa parole dans la traduction du sens est, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Surat Az-Zumar, verset 9. Et Cheikh, il dit, et la réponse est non, par rapport à cette question. Ils ne sont pas égaux. Et parmi eux, la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens est, celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Sourate Ra'd, verset 19. Le savant est donc clairvoyant. Et l'ignorant est au niveau de l'aveugle qui ne voit pas la route matérielle. Et l'ignorant ne voit pas la route immatérielle qui amène celui qui l'emprunte vers la satisfaction d'Allah et son paradis. Et il y a dans ces nobles versets un éloge de la science et des savants et un blâme de l'ignorance et des ignorants. D'accord ? Et certains de nos savants, subhanallah, qui sont parmi les clairvoyants de la communauté, ils sont aveugles, comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Comme Cheikh Obeid, qui est toujours vivant, qui est aveugle. Et d'autres. Maintenant, deuxième catégorie. وَقِسْمٌ مِنَ الْعِلْمِ الشَّرْعِي وَهُوَ خَيْرٌ فِي ذَاتِهِ وَمَمْدُوحٌ فِي ذَاتِهِ وَالشَّرٌ عَلَى حَامِلِهِ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَالْمَفْهُومُ أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي لَا يَنْفَعُ يُسْتَعَاذُ بِاللَّهِ مِنْهُ لأنه شر على صاحبه وهو خير في ذاته. Regardez les ulama qui sont précis. On a dit encore une fois, c'est quoi la première catégorie d'ilm? C'est la science qui est louable. Et la personne qui la détient, elle est récompensée si elle la met en pratique. D'accord? Cheikh, il a dit, pour être plus précis, il a dit, celui qui la détient, et c'est la religion d'Allah, il est récompensé. Si je sois précis dans ce que je dis, il a dit, une science louable de la personne qui la détient est récompensée, voilà. Et c'est la science de la religion d'Allah, le Très-Haut, jusqu'à ce que ça mise en application en général et en détail. Donc maintenant, il y a une autre catégorie. Il dit quoi ? Il dit, et une science de la religion qui est un bien en soi, et louable en soi, mais un mal pour celui qui la porte. Pourquoi ? Voilà. Et qui ne la met pas en pratique. Et cela est indiqué par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et je cherche refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas bénéfique. Et c'est un hadith qui est dans l'authentique de muslim. Et cela est indiqué par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je te demande une science bénéfique. C'est le hadith qu'on a rapporté après, la dua qu'on doit faire après salat al-fajr. Et c'est quoi ce hadith ? Il est rapporté par Ibn Majah. Et le sens de cela est que la science qui n'est pas bénéfique, on cherche refuge auprès d'Allah contre elle. On demande à Allah Azzawajal qu'il nous préserve de cette science. Car c'est un mal pour celui qui la détient, alors que c'est un bien en soi. Maintenant, troisième catégorie. وَقِسْمٌ مَذْمُومٌ هُوَ وَأَهْلُهُ وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ شَرٌ مَحْضٌ كَعِلْمِ السِّحْرِ وَالْكَهَانَةِ وَعِلْمِ الشَّعْوَذَةِ على اختلاف أنواعها والعلم الذي ادعاه المشركون لأنفسهم وهذه العلوم دل على شرها وشؤمها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأن السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وقال الله عز وجل في علم الكفار الذي كانوا يتطاولون به فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم أي بأن آباءهم كانوا على حق وصواب وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن طرائقهم وما كانوا عليه قال تعالى فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقال المؤلف اتبع الهدى منتزع من قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذ المراد بالهدى العلم النافع والدين الحق العمل الصالح ظاهرا وباطلا أقوالا وأفعالا ليظهره على الدين كله أي على كل دين يخالفه من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها من النحل الباطلة فدين الإسلام هو الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه والذي يجب أن يأخذ به العباد ويتمسك به كما أمر الله تبارك وتعالى ودعاهم إليه رسوله عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن لم يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا بعيدا بانتمائه إلى فرق الباطل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أو من أهل البدع والضلال الذين عادلوا عن منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والله أعلم Première catégorie, c'est quoi la science qui est la science de religion d'Allah, qui est la science louable et dont les gens qui la détiennent sont récompensés. Deuxième, c'est la science qui est un bien en soi, mais qui est un mal pour la personne qui ne la met pas en pratique et qui n'est pas bénéfique pour lui. Troisième catégorie, c'est une science qui est blâmable ainsi que ses gens. Et c'est la science qui est un pur mal, comme la science de la sorcellerie et de la divination. Et la science de l'illusionnisme est sous ses différentes formes. Et la science que se sont prétendus les associateurs. Le mal de ces sciences a été indiqué par le livre d'Allah le Très-Haut. Et par la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah le Très-Haut a dit au sujet de la sorcellerie, c'est un verset de surat Baqara que vous connaissez sûrement, c'est dont la traduction du sens est, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Parce que vous savez que le sihr, c'est un annulatif de l'islam, et que la personne qui le commet, elle est considérée comme étant un kafir. Donc, sourate Al-Baqara, verset 102. Et Allah le Très-Haut a dit au sujet de la science des mécréants, au sujet de laquelle ils se vantaient, selon la traduction du sens est, lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ce dont ils se moquaient les enveloppa, et c'est sourate Ghafir, verset 83. Et donc, la parole de l'auteur, on a dit quoi? Tamassak bihablillahi wa tabi'i al-huda. Et suit la guidance. Et prise de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, celui qui a envoyé son messager avec la bonne direction, bilhuda wa dinil haq. Et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelques répulsions qu'en aient les associateurs. Surat Tawbah, verset 33. Car le sens de guidance, et vous êtes capable de répondre maintenant, est la science bénéfique. Et la religion de vérité est l'action vertueuse, intérieurement et extérieurement, en parole et en action, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, al-Yahoudiya, al-Nasraniya, le paganisme et les autres religions qui sont fausses. Donc la religion de l'islam est la religion de vérité, qui domine et qui n'est pas dominée, et qui est obligatoire aux serviteurs de s'y accrocher comme Allah le Très-Haut a dit, alayka salam. Comme Allah le Très-Haut leur a ordonné et comme il les y a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran, verset 103. Et celui qui ne se cramponne pas au câble d'Allah le Très-Haut se sera alors égaré d'un grand égarement par son appartenance au groupe du faux qui émiette leur religion. Vous voyez, hein, l'importance d'étudier les livres d'Aqida, les livres des ulama. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de sujets fondamentaux pour nous. On parle de guidance et d'égarement, des sujets fondamentaux. On parle de croyance. De ce qu'on est, il nous est obligatoire de croire. Et la voie sur laquelle il nous est obligatoire d'être. Parce qu'il n'y a pas 10 voies correctes. Il n'y a pas 10 droits chemins. D'accord? D'ailleurs, il y a un livre, cher Rabbi, qui est très connu, qui s'appelle comment?
C'est pas une voie pas 4. Une voie pas
40. T'es pas... Il y a le ménage de l'NBA, mais c'est un autre.
Ou un groupe. Je
sais pas,
un groupe
Siraton. Ouais. Et ouais. Vous me faites douter, moi, mais titre là maintenant. Hein? À la coulée, hal. Et à la fin du titre, il dit Jama'atun wahida, voilà. Siraton wahida, la asharat. Ou Jama'atun wahida, la jama'at. Voilà, c'est ça le titre. Hein? Moi, il fait peur là. C'est quoi? C'est une voix et pas 10. Un groupe et pas des groupes. Tu dis dans le surat Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Le droit chemin. Allah dans le Coran, il dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et voici ma voix dans toute sa rectitude. Suivez-la. Et ne suivez pas les voix, les petites voix qui vous égardent. La grande voix. Vous connaissez le hadith où le prophète a tracé un trait dans le sable, dans le sol, et il a mis un grand long trait qui est sirat mustaqim et tous des petits traits qui partent du grand sirat, qui sont courts et qui partent vers la droite et vers la gauche. D'accord? Si vous voulez, il y a des cours qui ont déjà été faits par nos frères. J'en ai déjà parlé dans certains cours. Revenez au site de confiance, aux frères de confiance, pour en savoir plus, Inch'Allah. Donc, Cheikh, il dit ici, et celui qui ne s'en cramponne pas au câble d'Allah le Très-Haut se sera alors égaré d'un grand égarement par son appartenance au groupe du faux, qui émiette leur religion et se divise en sectes, ou parmi les gens des innovations religieuses et de l'égarement qui se sont écartés de la voie de ceux qui sont comblés de faveur, les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux, et Allah est le plus savant, le Cheikh dit. Il y a une question ici après qui a été posée à la fin de ce dars, je l'ai pas, on ne va pas la faire, c'est le sujet qui a été posé par rapport au terrorisme, par rapport à ce qui s'est passé à un moment en Arabie Saoudite, parce que le Cheikh il enseigne en Arabie Saoudite. Évidemment le Cheikh, comme vous connaissez la position des gens de la Sunna, il a mis en garde sur cette, les croyances déviantes qui amènent à ce genre d'action, etc. Et je vous donne la référence, c'est de page 19. Il y a beaucoup de fatwas qui ont déjà été traduits sur le sujet, jusqu'à la page 21, si vous voulez avoir une idée de ce qu'a dit le Cheikh, etc. Alors quand il a mis en garde contre ça, il a dit que c'était bâti, ça ne fait pas partie de la religion. Et il a mis en garde sur les khawarij, en méthodologie, il a rapporté les textes sur les khawarij et les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, on va s'attacher à quelle partie du poème ?
L'innovation.
Alors, qui sait dire le poème depuis le début ? Maintenant, on devrait avoir plus de mains, gars. Au plus, hein, c'est vrai, hein. Au plus le temps avance, au plus il devrait y avoir de mains. C'est-à-dire que ce serait directement proportionnel. Vas-y. C'est sur les mêmes, entre parenthèses. Voilà. Voilà ta cour, bid'iyan. Voilà ta cour, bid'iyan. Il dit le cher, قال المؤلف رحمه الله لا تكن بدعيا خطاب لكل مكلف عموما ولطلاب العلم خصوصا وذلك تحذير من المؤلف من الوقوع في البدع والبدع جمع بدعة والبدعة هي الفعل أو الاعتقاد أو القول الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين المهديين من بعده والله تبارك وتعالى أمر الأمة باتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة ونهاهم عن اتباع غيرهما في آيات متعددات من قول الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وغيرها من الآيات وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة في الكتاب والسنة الإجماع مصادر التشريع وحقيقة الإجماع هو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم في كل زمان ومكان والقياس الجلي فرع المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. Donc il explique maintenant, il dit la parole de l'auteur qui est quoi, et ne sois pas, après avoir dit attache-toi au câble d'Allah, d'accord, et suis la guidance, et ne sois pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une parole adressée à toute personne responsable de ses actes, en général, et aux étudiants en sciences islamiques en particulier. Et c'est une mise en garde de la part de l'auteur contre le fait de tomber dans les innovations religieuses qu'on appelle bid'ah, pour le pluriel du mot bid'ah. Et le bid'ah, c'est le pluriel de bid'ah, d'accord? Si vous voulez une des meilleures définitions de la bid'ah, c'est ce qu'il a donné l'imam Shatibi dans son livre Al-Ihtisam. Revenez à il a été publié notamment en deux volumes, c'est dans le premier volume, sur la bid'a. Cherchez cette définition, et elle est assez courte, et c'est de la mémoriser. Hein, c'est une définition importante que l'imam Shatibi rahimahullah a donnée. Et la bid'a, c'est l'action, ou la croyance, ou la parole, qui n'était ni à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ni à l'époque des califes droits et bien guidés après lui. Et Allah a ordonné à la communauté de suivre ceux avec lesquels le noble prophète alayhi salatu wassalam est venu, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et leur a interdit de suivre autre que le Coran et la Sunna dans de nombreux versets. Parmi ceux-ci, la parole d'Allah, le Très-Haut, dont la traduction du sens est « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. » Cheikh Mokbir, rahimahullah, il disait que c'est un verset qui est un délit sur l'étiba, l'obligation de l'étiba, l'obligation du suivi. Et ce qui nous a été descendu venant de notre Seigneur, c'est les livres d'Allah, le discernement et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein, le livre d'Allah, le Coran, on a dit, un des noms du Coran, c'est quoi? Al-Furqan, le discernement, et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On avait dit que le salafi sunni, il a ce furqan, le discernement, et cette lura furqaniya. Ce langage de discernement entre le faux et le vrai, les gens du faux et les gens du vrai, la vérité. D'accord ? Comme dans la, il a dit, il a sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme dans ce verset et d'autres versets. Et comme dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il m'a certes été donné le Coran, et identique avec lui, à lui avec lui. C'est-à-dire identique à lui avec lui. C'est-à-dire quoi ? La sunna. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Et Cheikh il dit, et c'est la sunna. Donc le Coran et la sunna, retenez ces trois, ça, on parle de, là des fondements de la religion. Les ulama, ils appellent ça les sources de la législation. C'est important de connaître ça. Coran, sunna, ijma. Coran, sunna, consensus, unanimité des savants. Cheikh Obeid, dans au Sultanat et dans beaucoup de ses cours, il dit, toute personne, tout livre, toute cassette, toute idée, toute chose, tu les mets, tu les pèses sur cette balance. Toute personne, toute parole qui contredit, ou toute action qui contredit le Coran, ou la Sunna, ou le consensus, elle est rejetée. Ou dans d'autres mots, il dit, Cheikh Obeid, il dit, « Dhalikum al-mizanan, al-nas wal-ijma'a. » Le texte et l'ijma'a. Qu'est-ce qui veut dire « nas » Coran ou Sunna, l'ijma'a, le consensus des ulama. Ça, c'est les deux balances, si tu veux, pour toi. Évidemment, on a besoin de revenir aux savants, parce que nous, on n'a pas les outils pour savoir ça, qui fait que tu vois toute personne, même si toi, tu penses le bien, mashallah, des fois, on entend, frère, il est trop fort. Hein? Mais qu'est-ce que tu sais qu'il est trop fort? Est-ce que toi, tu es aussi fort que lui ou plus pour savoir s'il est trop fort? Hein? Non, le frère, je vois, il dit que le bien. Il dit que des bonnes choses. Est-ce que toi, tu as la capacité de pouvoir analyser son discours et de voir si c'est correct en fonction du Coran, la Sunna et l'Ijma ou pas? Non. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le cheikh, il dit quoi ici? Il dit le Coran, la Sunna et le consensus, et ce sont les sources de la législation. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut dire, mais c'est quoi l'Ijma? C'est quoi le consensus? Et il dit, et la réalité du consensus et l'Ijma, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez savoir c'est quoi l'ijma en détail, ou bien le qiyas en détail, etc., revenez au livre d'Usul Fiqh, les fondements de la jurisprudence, comme le livre de Cheikh Al-Uthaymin qui s'appelle Usul min ilm al-Usul, qu'il a expliqué lui-même d'ailleurs. Cheikh dit, ijma, c'est ce sur quoi sont unanimes ceux dont le consensus est pris en considération. Comme cela. Il y a des gens, on ne prend même pas leur parole en considération dans l'ijma. Parmi les imams de science en tout temps et en tout lieu. Et puis il parle de. Quelqu'un veut dire, oui, mais il y a une quatrième source, c'est le qiyas. Cheikh dit, le qiyas el jali, on ne va pas rentrer dans la différence entre c'est quoi le qiyas el jali, le qiyas el khafi, c'est trop compliqué, surtout en français. Et je vous donne une source, et je l'ai mise, entre parenthèses, toutes les notes des cours qu'on a fait ce week-end, vous les trouverez sur notre site, Inch'Allah. J'ai mis un lien où vous trouvez une parole de Cheikh Al-Uthaymin dans son livre que je vous ai dit, hein, et dans d'autres livres, où vous pouvez trouver c'est quoi le qiyas et c'est quoi les différents types de qiyas, etc., pour les frères, évidemment, qui ont la langue arabe. Donc ici, le qiyas el jali est une branche des trois sources de législation. C'est quoi les trois sources, on a dit? Coran, Sunna et le consensus, l'ijma. Et puis le cheikh, il dit, Idan, fa sunnatu ma thabatat ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, j'ai pas dit. Wa bil munasabati dhikri al-bid'ati fi qawli al-mu'allif wa la taku bid'iyya. Wa la taku bid'iyyan la budda min fahmi sunnati wa wujub al-iltizami biha. Idan, fa sunnatu ma thabatat ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlihi ou fi'lihi ou taqririhi, soit en fima yata'allaku bil i'tiqad, ou fima yata'allaku bil sha'airi at-ta'abbudiyya, ou fima yata'allaku bil mu'amalati, ou fima yata'allaku bil sha'ni d-dini kullihi jumlatan wa tassila. Wa hukm al-amal biha, ima al-wujub, wa ima al-istihbab, bihasab al-khitab al-taklifi, wa hada yu'arafu fi mawadi'i bimuqtada adillatihi. Thumma sunnatu min hithu alaqatiha bil-Qur'an al-Karim, thalatatu anwa'a. Donc le cheikh dit, et comme la bid'a, l'innovation religieuse a été citée dans la parole de l'auteur, elle ne soit pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse, il incombe de comprendre ce que la sunna est l'obligation de s'y conformer. On a dit hier déjà, on apprend le tawhid, il faut connaître le tawhid pour s'y attacher, hein, et être sur le tawhid, et de savoir c'est quoi le shirk, pour s'en écarter, d'accord, et pour mettre en garde contre ce shirk, etc. Qu'est-ce qui fait face à la sunna? Comme le tawhid, ou plutôt le shirk qui fait face à tawhid, qu'est-ce qui fait face à la sunna? La bid'a. D'accord? Cheikh dit, la sunna c'est ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète alayhi salatu wassalam, ses paroles, ou ses actions, ou ses approbations. que cela soit en ce qui concerne la croyance, ou en ce qui concerne les rites d'adoration, ou en ce qui concerne les transactions, ou en ce qui concerne toute la religion en général et en détail. Le jugement de sa mise en application à la sunna, soit l'obligation, soit ce qui est recommandé, en fonction de la manière dont l'ordre de prescription est donné. C'est qui sait ce qui est wajib ou ce qui est mustahab, hein? Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a des gens chez lesquels maintenant le mot sunna, il est devenu systématiquement, quoi, le sens de recommandable, mustahab. Il y a différents sens de la sunna. Et regardez le sens, il est quand même général, il est plus général que ça. D'accord? Il y a des sunnahs qui sont obligatoires. Et il y a des sunnahs qui sont recommandables. Et ça, c'est le ulama qui décrète. Il dit soit l'obligation, soit que c'est recommandé en fonction de la manière dont l'ordre de prescription est donné, et cela est connu à ses sources en fonction de ce qu'impliquent ses preuves. Et la sunna, quant à sa relation au livre du Coran, elle est de trois types. On a presque fini, on a un peu de patience. Il a dit, maintenant on sait c'est quoi la sunna, maintenant on veut savoir c'est quoi sa relation avec le Coran. Il dit, نوع منها جاء موافقا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن الكريم أي إذا جاء القرآن فيه الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك فقد جاءت السنة بذلك أيضا كما قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجاءت السنة أيضا كذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد خاض قوم زعموا أنهم مستغنون عن السنة ومكتفون بالقرآن الكريم ولا شك أن من قال ذلك واعتقده فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. La sunna, quant à sa relation au livre du Coran, elle est de trois types. Premier type. Un type qui est en concordance avec le noble Coran, dans les jugements, le licite et l'illicite. C'est-à-dire que s'il y a dans le Coran l'ordre de prier, ou de donner la zakat, ou de s'acquitter du pèlerinage, ou autre, cela est ordonné aussi dans la sunna. Comme Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Sourate Al-A'raf, verset 3. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate Nisa, verset 103. Et la sunna est aussi venue avec cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'islam est basé sur cinq pilier, l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré par Allah, et je vous ai dit dire que la traduction correcte de la ilaha illallah, contrairement à ce que beaucoup de musulmans croient, c'est la en arabe c'est la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est ça le sens correct, c'est-à-dire nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et c'est faux de dire il n'y a de Dieu que Dieu. Nul n'est en droit d'être adoré avec vérité en dehors d'Allah, parce qu'il y a des divinités qui sont adorées de manière fausse en dehors d'Allah. D'accord? On continue. C'est la suite du hadith sur les cinq quoi? Les cinq piliers. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et l'accomplissement de la prière, comme il convient qu'elle soit accomplie. Et l'acquittement de la zakat, l'aumône légale prescrite. Et le jeûne du mois de Ramadan. Et le pèlerinage à la mosquée sacrée de la Mecque pour celui qui en a la capacité. Et ce hadith, c'est un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, rapporté dans Bukhari ou Muslim. Et des gens qui ont prétendu qu'il se passe de la sunna et se suffisent du noble Coran ont échoué. Il y a une secte qui s'appelle Al-Qur'aniyoun. Ils se revendiquent eux comme Al-Qur'aniyoun, alors que le Coran, il est contre eux. Et eux sont contre le Coran. Ils disent, on se suffit du Coran et on ne prend pas de la sunna. Ils ont des chouboites, attention, hein. Ils disent non, il y a des hadiths d'aïf et ceci, etc. On ne sait pas savoir, donc on se limite au Coran. Hein? Et on a déjà eu des discussions avec certaines personnes qui disent ce genre de paroles-là, etc. Et un cher, il avait raconté aussi qu'il avait une discussion comme ça. C'est très facile de les réfuter. Tu lui dis simplement, combien de deux rak'at tu pries dans le maghrib. Il y en a, ils essaient, dis-moi combien, trois, oui ou non? Oui, il dit, ben oui, je prie trois rak'at. Tu dis, est-ce que c'est dans le Coran? Je vous pose la question, c'est dans le Coran? Qu'est-ce qui est dans le Coran? L'ordre de prier. Mais le détail, il était où? Dans la sunna, il a menti ou il n'a pas menti? Hein? Voilà, ça fait la discussion, elle est finie, khlas. Hein? Dans la, c'est ça, les guerrements dans la croyance. Vous comprenez pourquoi l'importance d'étudier la croyance dans les bonnes sources et chez les bons ulama? Je vous rappelle la parole de Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, in hada al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Sachez de qui vous prenez donc votre religion. Regardez. Regardez. Demandez aux gens de science, demandez aux gens de confiance. Hein? Demandez aux gens de la sunna pour savoir de qui prendre. Ne prenez pas du premier qui vient qui dit qu'Allah qu'a Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute que celui qui. Regardez la gravité de cette aqidah là. S'il croit ça, il dit il n'y a aucun doute que celui qui dit cela et le croit aura démenti le Coran. Et c'est quoi le jugement de celui qui démenti le Coran? C'est le kufr. Attention. Il dit, et celui qui démentit le Coran aura mécru. Ça, c'était quoi le premier type? Type de quoi? Tu ne savais pas répondre, vous n'avez pas suivi. Pardon?
La relation.
Voilà, la relation de la sunna au Coran. On dit, c'est de trois types. Premier type, c'est celui qu'on vient de dire, c'est qu'il y a une concordance. D'accord? Vous allez mieux comprendre pourquoi il parle de concordance ici, parce qu'il va dire qu'après il y a des ahkams qui sont quoi? Spécifiques à la sunna et qui ne sont pas dans le Coran. Il y a des jugements qui sont spécifiques au Coran, dans la sunna, pardon, et qui ne sont pas dans le Coran. Il y a des points qui sont cités dans la sunna et qui ne sont pas cités dans le Coran. On est toujours obligé d'y croire et de mettre en application, etc. D'accord? Le cheikh il dit النوع الثاني ونوع منها جاء بأحكام كما مستقلة أي لم تكن موجودة في القرآن العظيم وإن كان هذا النوع قليلا وكل من القرآن والسنة يشهد للآخر يرحمك الله فالقرآن يشهد للسنة يأمر بالاعتصام بها والسنة تأمر بالعناية بالقرآن الكريم ودل ذلك أدلة ذلك موضحة في الكتاب والسنة قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ففي الآية دعوة من القرآن للأمة أن تأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام جملة وتفصيلا كل شيء في موضعه والسنة جاءت تدعو إلى الأخذ بالقرآن الكريم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. Je sais que les termes sont un peu compliqués ici, on va les définir un par un, inshallah. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن رجل عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي أي في غرفة الجنة في غرف الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Les textes qu'on va rapporter de la sunna, ils donnent la grande valeur de surat al-Baqarah et surat al-Imran. Et je vous recommande de les mémoriser, et de savoir le tafsir, et de les comprendre, et de les mettre en application. Et des mashaykh, il y a des dourous complètes sur al-Baqarah et al-Imran sur le site miraf.net en arabe. D'accord? D'un des mashaykh d'Arabie qui expliquait ce genre de texte, c'est le fadl al-Baqarah et al-Imran, il a fait le tafsir, etc. D'accord? Chez le sahaba, il a rapporté dire ce cheikh chez le sahaba, quand quelqu'un connaissait le Baqarah ou l'Imran, et vous savez que Sahaba comme il mémorisait le Coran, c'est-à-dire que c'est 10 versets, et puis qu'il comprenait, mettant en application ça, quand quelqu'un connaissait le Baqarah ou l'Imran, il disait qu'il était Azuma Sha'nu, qu'il voyait comme quelqu'un de très important. Regardez, le Baqarah ou l'Imran. D'ailleurs, le hadith est clair, il appelle Az-Zahrawayni, Iqra'u Az-Zahrawayni. Le professeur nous les appelait Az-Zahrawayni, les deux Zahra. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. Donc, deuxième type là, de relation. Une partie de la sunna qui est venue avec des jugements indépendants de quoi ? Du Coran. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le sublime Coran, et ce même s'il y a peu de jugements de ce type. Et chacun des deux, le Coran et la sunna, témoignent pour l'autre. Le Coran témoigne pour la sunna et ordonne de s'y cramponner, et la sunna ordonne de donner de l'importance au noble Coran. Et les preuves de cela sont clarifiées dans le Coran et la sunna. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, prenez ce que les messagers vous donnent et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Surat al-Hajj, verset 7. Il y a donc dans le verset un appel du Coran à la communauté qu'elle prenne tous ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu comme jugement en général et en détail. Chaque chose a sa place. Et la sunna est venue appelant à prendre le noble Coran, comme dans la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran. Car il viendra comme un intercesseur pour ces gens le jour de la résurrection. D'accord ? Rapporté par Muslim. Et sa parole, alayhi salatu wassalam, lisez Az-Zahrawain. C'est quoi Az-Zahrawain ? C'est-à-dire Az-Zahrawan Al-Muniratan. C'est ça que ça veut dire en arabe. Hein? Al-Muniratan. Les deux qui illuminent, car elles illuminent la voie à ceux qui l'empruntent et sont sur la voie de la législation. D'accord ? Je répète. Lisez les deux. On les appelait Zahrawain, c'est-à-dire les deux sourates qui illuminent, Al-Baqarah et Ali Imran. Car la récompense de leur lecture à toutes deux. Ici, pas rentrer trop dans les détails. Hein? Parce qu'il y en a qui essaient d'utiliser ce genre de texte pour dire que le Coran est le makhlouq. Que le Coran est créé. Les ulama, ils ont réfuté ça. C'est pour ça que moi j'ai traduit ça par la Aqidah al-Sunnah. J'ai dit, car la récompense de leur lecture à toutes deux. C'est Cheikh Al-Athaymin qui a expliqué ça dans son explication de Nouniya. Ils ont dit, parce qu'ils ont dit, ah, regardez le Baqarah et Ali Imran, ils viennent intercéder. C'est comme si c'était des choses créées. Regardez où ils vont. Hein? D'accord ? Donc le Coran, kalamullah, ghayr makhluq. Donc c'est pour ça que j'ai traduit par la récompense de la lecture à toutes deux. C'est une traduction conforme à l'explication de ce hadith par Cheikh Al-Uthaymeen dans ses annotations du poème Nouniya d'Ibn Qayyim. À toutes deux, donc je répète que vous suivez le fil. Lisez quoi ? Les deux sourates qui illuminent, Al-Baqarah et Al-Imran, car la récompense de leur lecture à toutes deux vient le jour de la résurrection, comme si c'était deux Ramamatan. Le Ramama, c'est le duel de. Ramamatan, c'est le duel de Ramama, deux Ramama. Le Ramama, c'est As-Sahaba. C'est-à-dire quoi ? Le nuage. Comme si c'était deux nuages ou deux Rayaya. Rayayatan, qui est le duel du mot Rayaya, qui est tout ce qui était fait de l'ombre au-dessus de toi. Je vous ai mis toutes les sources, vous pouvez trouver l'audio où j'ai trouvé ces explications là, Inch'Allah. Donc, Rayayatan, comme si c'était deux nuages, ou deux Rayaya, qui est tout ce qui fait de l'ombre au-dessus de toi, ou deux groupes d'oiseaux ayant aligné leurs ailes, et la récompense de la lecture des deux plaidera le jour de la résurrection pour celui qui les détient. D'accord ? Et un autre hadith du prophète Asamoui dit, lisez le Baqarah, car l'apprendre est une baraka. Wala yastati'uha al-batala. Ils n'en sont pas capables al-batala. C'est qui le batala? Al-sahara, les sorciers. Le cheikh qui a fait le tafsir de ça, il dit, ils ne sont pas capables. C'est-à-dire, le sens de cela est soit parce qu'ils ne peuvent pas la mémoriser, le sahara, ils ne savent pas la mémoriser, les mémoriser, le Baqarah wa al-Imran, soit parce qu'ils ne sont pas capables d'y faire face, ou qu'ils ne peuvent pas parvenir au sein de celui qui la récite. D'accord ? Pardon, je parlais de quoi ? De Al-Baqarah. Hein ? Il y a dans un hadith d'Abdullah ibn Amr, qu'elle les agrée tous deux, qui rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, il sera dit au récitateur du Coran. On a beaucoup parlé du Coran ce week-end, Inch'Allah qu'on ait changé au niveau du Coran, notre attitude vis-à-vis du Coran. Il sera dit au récitateur du Coran, récite et psalmodie et monte degré par degré. C'est-à-dire dans les chambres du paradis. Car ta place est là où tu réciteras le dernier verset. Là, ça motive, hein. Rapporté par Cheikh Mokbil dans Sahih al-Musnad. Et puis le Cheikh, il dit, il y a de nombreux autres ahadiths. Wa ghayru dhalika kathir. Wa ma dhalika illa li anna al-Quran wa sunna wahyani karimani. من عند الله سبحانه وتعالى وإن كان للقرآن مزيته وخصائصه التي لا يجهلها أهل العلم وللسنة فضلها وهما عند أئمة العلم السائرين على نهج السلف من مشكات واحدة من عند الله تبارك وتعالى كما هما في وجوب العمل سواء. Donc le cheikh il dit, il y a de nombreux autres hadiths sur le sujet. Et cela n'est que parce que le Coran et la Sunna sont deux nobles révélations venant d'Allah, même si le Coran a sa vertu et ses spécificités qui ne sont pas ignorées par les gens de science. Et la Sunna a sa préséance. Et ils sont tous deux pour les savants qui sont sur la voie des plus prédécesseurs d'une seule même source venant d'Allah le Très-Haut. Ils sont tous deux au même niveau en ce qui concerne l'obligation de les mettre en pratique. Troisième type de la Sunna, de relation, pardon. وَنُوعٌ مِنْهَا جَاءَ إِضَاحًا لِمَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُجْمَلَةِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا. Troisième type, une partie de la Sunna qui éclaircit les jugements généraux et qui se trouve dans le noble Coran comme la prière et la zakat et le jeûne, etc. Michel il continue, il dit وَلِشُؤْمِ الْبِدْعَ وَخَاطِرِهَا فَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ تُحَذِّرُ مِنْهَا مَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي أمر الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي ذلك تحذير شديد من الواقع وقوع في البدع وما ذلك إلا لشؤمها وكثرة شرها وخطر على الناس إذ كل زمان تنجم فيه بدع وضلالات وقد بدأت من عصر الصحابة فقد ظهرت بدعة الخوارج وامتدت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الزمان في المستقبل وهم شر الفرق المبتدعة التي جرت الأذى للمسلمين وأوجدت الفرق بينهم فقد استحل الخوارج الدماء وكفروا المسلمين وما أمروا فتنة الجزائر ببعيد يعني ضد خبيي وفي عصر الصحابة كفروا أفاضل المسلمين الذين شهد لبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحذت حذوهم وورثت جرمهم الفئة الضالة في هذا الزمان الذين تجمعوا وخططوا تخطيطا شيطانيا فكفروا المسلمين وعلى رأسهم العلماء والحكام واستحلوا الدماء المحرمة المعصومة وأخافوا السبيل بل وأخافوا المدن والقرى في بلاد الحرامين وغيرها من البلدان العالم وسلف هذه الفئة الضالة هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وبرز لهم ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله عليهم فما هي إلا ساعات وإلا وقد قضي عليهم وأراح الله حين ذاك المسلمين من شرهم وكانوا قبل ذلك خرجوا على الفاروق فقتلوه وجماعة من معهم وخرجوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه والقصة معروفة شهيرة كالشمس في وقت الظهيرة قاتلهم الله أنى يؤفكون ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية وبعدها لكن شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن فقطعه الله أي كلما طلع قرن من الخوارج قطعه الله على أيدي من شاء من عباده ولما قيل لعلي رجل عنه هنيئا لك استأصلت شأفتهم قال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم على الدجال وإذا كان الأمر كما علمت فإن الخوارج شرهم عظيم وضررهم جسيم لذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في قتلهم وقتالهم وتمنى أن يجدهم فيقتلهم قتل عاد وثمود لشدة شرهم وخبثهم هم لا يقوبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقد يكون الكفار أعث قتلة منهم أما هم فإنهم إذا ظفروا بخصومهم قتلوهم شر قتلة كما فعلوا بعبد الله بن خباب وجاريته فقد ذبحوه كالخروف وبقروا بطن جاريته عن جنبيها عن جنينها والشيء بنظيره يذكر فإن أفعال هؤلاء الضلال في هذا الزمان وفي الدولة السعودية بالذات يذكرون بذلك من صنيع الشنيع مع الصحابة الكرام والعلماء الأعلام. En raison du mal de l'innovation religieuse et de son danger, il y a beaucoup de textes qui ont été rapportés mettant en garde contre elle. Parmi ces textes qui a précédé comme noble verset. Et parmi les textes de la Sunna, la parole du prophète عليه الصلاة والسلام dans le hadith d'Aïcha, quiconque met en pratique un acte qui ne fait pas partie de notre religion, il, c'est-à-dire l'acte, est rejeté. L'imam Nawawi rahimahullah dit « Rad ay mardoudun ghir mu'taddin bih » rapporté par Muslim. Et dans notre version, quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce qui est innové est rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc les deux versions rapportent celui qui a innové le premier et celui qui met en pratique après lui. Amruna, laissez alayhi, Amruna, notre ordre, c'est-à-dire l'ordre de la religion. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, prenez garde aux choses innovées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement est un enfer. Authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Al-Jami'. Il y a en cela une mise en garde sévère contre le fait de tomber dans les innovations religieuses. Et cela n'est qu'en raison de leur grand mal et de leur danger pour les gens, car toute époque apparaissent des innovations religieuses et des égarements. Et elles ont commencé à l'époque des compagnons, car était apparue l'innovation des Khawarij. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'autant Allah le veut entend dans le futur. Et ils sont la pire des sectes innovées, qui ont amené les préjudices à la communauté et qui a fait naître la division. Les Khawarij ont rendu le sang comme étant licite à faire couler, et ont jugé les musulmans comme étant mécréants. Et au temps des compagnons, ils ont jugé mécréants les meilleurs parmi les musulmans, parmi lesquels certains au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils seraient au paradis. Et à leur tête, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. D'accord ? Et on ne parle pas d'une secte qui n'existe plus. Vous allez voir que les hadiths sont clairs, qu'ils sortent génération après génération. Il y en a au jour d'aujourd'hui. Ils allaient même mettre en garde contre eux. Regardez en Tunisie. Regardez en Libye. Regardez en Algérie. Hein ? Regardez en Égypte. Regardez au Yémen. Regardez en Afghanistan. Regardez au Pakistan. C'est pas une secte qui n'existe plus de nos jours. D'accord ? Hein ? Ils ont des têtes. Et ils ont des références qui sont leurs leaders, des idéologues. Et ils sont nombreux. La kattarahumullah, qu'Allah fasse qu'ils ne sont pas nombreux. Hein ? Cheikh, il dit, et le groupe, justement, regardez comme il dit ce qui s'est passé à l'époque des Sahaba, et aujourd'hui, il dit, et le groupe égaré à cette époque-ci les a imités et hérités de leurs crimes. Comme Al-Qaïda, par exemple. D'accord ? Et les groupes qui sont affiliés et d'autres, etc. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des khawal, des tekfiriyon. Hein ? D'accord ? Et le cheikh, il dit, ceux qui se sont regroupés ont planifié un plan satanique et ont jugé les musulmans comme étant mécréants. Parce que la base de ces gens-là, pourquoi ils s'en prennent aux musulmans ? Pourquoi ils les massacrent ? Pourquoi ils les tuent ? Pourquoi ? Etc. C'est parce qu'à la base, il y a quoi ? Hein ? Tekfir. Les ulama disaient tekfir, thumma tafjir. D'abord le tekfir et après quoi ? Hein ? Le fait de faire des attentats, etc. D'accord ? Et pour les frères qui connaissent un peu ce qui s'est passé en Algérie et d'autres pays, etc., même au Maroc, hein, même si le niveau de ce qui s'est passé au Maroc, il est beaucoup moindre que ce qui s'est passé en Algérie, d'accord ? Il y a des gens qui étaient des femmes, par exemple nos mamans, hein, nos sœurs, nos tantes, nos oncles, nos frères, etc., qui sont dans le marché, etc., et qu'il y a une bouteille de gaz qui explose en plein marché. Et ça, c'est fait soi-disant au nom du djihad. Regardez l'égarement à quoi il peut amener, attention. Attention. Et c'est pas, attention, c'est pas des théories du complot et conspirationnistes. On connaît des frères qui étaient là, ils ont dit on a ramassé les corps, nous. Il ne faut pas dire des théories conspirationnistes. On connaît des Tolabim qui ont été tués, notamment Talibim qui faisait Nasiha Khawarij, il s'est fait gorger, rahmatullah alayh. Hein? Regardez le courage, il allait dans les montagnes, il leur faisait Nasiha. Et son salaf là-dedans, c'était Abd ibn Abbas, radiallahu quand il a été voir le Khawarij. D'accord? Il avait mis une belle tunique. Et dans le Khawarij, ils leur ont dit, parce qu'eux, ils se revendiquent quoi de Zuhd, etc. Il a dit, regarde, t'es un compagnon, tu mets. Hein? Il leur a dit, c'était le hadith du prophète Hassan sur la. Et d'ailleurs, il a débattu avec eux. Il a dévoilé et réfuté toutes leurs ambiguïtés. Et 2000 parmi eux sont revenus. Et les autres sont restés dans le dalal. Ils ont combattu qui ? Sahaba. Imaginez le dalal. Ils disaient, Inna al-hukmu ila lillah. Portant le sabre contre qui ? Contre les compagnons du prophète. Donc il leur a dit, je ne vois aucun parmi les compagnons du prophète avec vous. Est-ce que vous êtes plus guidés que les compagnons ? Comment on dit au Khawarij aujourd'hui ? Vous n'avez aucun des ulama parmi vous ? Aucun ? Aucun ? Donc le cheikh, il dit, ils ont jugé les musulmans comme étant mécréants et à leur tête les savants et les gouverneurs ont rendu licite le sang illicite et protégé. Et ils ont causé la peur sur le chemin, mais de plus ils ont terrorisé les villes et les campagnes au pays des deux mosquées sacrées et dans d'autres pays du monde. Là, il faut savoir qu'à une époque en Algérie, d'accord, dans les villages, c'était, dans certaines régions d'Algérie, c'était très dangereux. Hein. Les gens ils avaient peur de sortir de chez eux, etc. Il y a des gens qui passaient par groupe, qui se faisaient égorger, alors qu'ils n'avaient rien fait, c'était des simples gens de la masse. Au nom de quoi tout ça ? De soi-disant kufr bit-ta'ghout. C'est une réalité. Et peut-être que des frères algériens ici, ou des anciens, ils peuvent témoigner de ça aussi. D'accord ? Alhamdulillah, la fitna s'est beaucoup calmée par rapport à avant. Alhamdulillah, on demande qu'Allah Azza wa Jalla protège l'Algérie et les autres pays musulmans du mal de ces gens-là. Et voilà, regardez les frères, moi je ne suis pas algérien. Et nous on dit ça par pour nos frères musulmans, on n'a pas ce nationalisme, cette prêche puant. Hein? C'est pas un mot de moi ça. C'est de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nationalisme c'est quelque chose qui n'est pas. Da'wa fa innaha da'wa. Natin. Comment on va dire natin? Hein? Quelque chose de hein? Voilà. Voilà, barakallahu fik, c'est le meilleur mot en français. Na'am. D'accord? Nationalisme, ça ne fait pas partie de notre religion. Et Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, il a fait une risala qui s'appelle Naqt al-Qawmiya al-Arabiya. Une réfutation et critique du nationalisme arabe. D'accord? Du nationalisme. Donc nous, on n'a pas ça. Moi, je suis pas algérien, mais on dit ça parce qu'on sent mal, on a du mal. D'accord? Et on souffre pour nos frères algériens, pour tous les pays musulmans et tous les musulmans qui subissent ce genre de fitna-là. D'accord? Nous, on n'a pas cette distinction de frontières. Les frontières, elles existent, bien sûr. Mais dans notre cœur, on est touché par ce qui touche la communauté. D'accord? On n'a pas, et ça c'est une mise en garde de ma part aussi, ne rentrez pas dans les histoires de nationalisme, etc. Ça c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Il y a des textes qui sont clairs par rapport à ça. S'il y a des Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, là, on est tous des frères. Si vous venez chez nous à la mosquée salafite de Birmingham, vous allez voir des frères de toutes les nationalités. C'est la seule mosquée qui est comme ça. Parce que sunna tajma', wa la tafarraq. Vous trouvez des Jamaïcains, des Polonais, des Afghans, des Pakistanais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Soudanais, j'en oublie, des Libyens, tout ce que vous pouvez imaginer. On a même des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Chinois. Tous en rang, tous sur le même aqidah, sur le même manhaj, etc. Venez voir une fois, vous allez voir la différence. On n'a pas cette division de kada kada. Regardez le khutab al-Jumu'ah chez nous, il y a un Jamaïcain. Il étudie à Médine, Cheikh Ahmed Ansari, Mohamed Al-Jami et d'autres. Abu Hakim. On a le responsable du centre qui est aussi un khatib, qui est Abu Khadija, un Pakistanais. On avait Abu Talha qui est un Anglais, blanc, rahmatullah Ali, il est mort, rahmatullah Ali, il y a quelques années. Hein? On a aussi Abu Idris qui est un frère pakistanais. Hein? On a des imams somaliens aussi, mais ils ne font pas la khutbah, on a des imams somaliens. On a un imam somalien, un imam soudanais. Les professeurs de Coran, ils sont différentes nationalités que vous pouvez imaginer, etc. À l'école primaire où j'enseigne moi, le directeur c'est un Bengalais. Hein? On a des Français, on a un Allemand, on a différents gens. Qu'est-ce qui regroupe tout ça? C'est la Sunna. C'est la Sunna. Et il y a quand suivi de la Sunna, Alhamdulillah, hein? Tamassak, Alhamdulillah, le manage al-Haq, le manage salafi, il y a quand en étant comme ça que tu peux, jma' la Umma. On dit aux Ikhwan musulmans, aux musulmans, tu veux voir le jama, tu veux voir, viens à la mosquée, tu vas voir ce que c'est le jama. Hein? Tu vois, regarde, le jama de la Sunna. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Pourquoi? Parce que c'est l'aqida sahiha, le manhaj salim qui regroupe les gens. Il y a des gens qui n'ont rien à voir, ça, oh là là. Un Cambodgien, un Marocain, ouais, voilà la relation entre eux. Hein? Hadaf le Masriq, hadaf le Maghrib, hadaf kada. Hein? Un il est vieux, un il est âgé, un il est blanc, un il est noir, kada. Et tu trouves quoi? Des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-mu'minuna, ikhwa. D'accord? Et les prédécesseurs de ce groupe égaré sont ceux qui sont rebellés contre Ali ibn Abi Talib et lui aussi, ainsi que ceux qui étaient avec lui parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, leur ont fait face et Allah les rendit victorieux contre eux. Regardez, Dalal a quand même amené. Ils font face, ils ont combattu Sahab avec le sabre. Il y a une histoire qui racontait que Ali ibn Abi Talib, qui était l'amir des compagnons, radiallahu anhu wa ardahum, il y avait la nuit, les sahaba, ils étaient blessés. Il y en a, ils soignaient leurs blessures. Il y en a, ils se préparaient pour le lendemain. Il y en a, ils se reposaient. Il y en a, ils préparaient leurs sabres, etc., etc. D'accord? Et il y avait des gardes qui protégeaient le camp des sahaba et le camp des khawarij, il n'était pas très loin. Et un garde qui faisait la garde, qui veillait le camp des compagnons, il était proche du camp des khawarij. Et il entendait leurs bruits de loin, il entendait les bruits du Coran. Lecture du Coran, des ibad, etc. Le khawarij, la nuit, ils étaient en qiyam al-layl. Parce que le prophète, il a décrit comme des gens qui étaient en apparence, tahqiruna salatakum ila salati, wa siyamakum ila siyamihim, etc. Vous allez quoi? Déprécier votre salat. Qui parle? Au sahaba, par rapport à l'autre, à leur prière. Mais Amir al-Mu'mini ne dormait pas. Ali, le dernier, il marchait aussi. Et il a senti quelque chose du garde. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a touché, comme si, yani, quoique, ces gens-là, regardent, ils font qiyam al-layl. Ils lisent le Coran, etc. Et nous, on est combat. Ali, il s'est assis à côté de lui et il lui a rapporté toutes les riwayats sur le Khawarij. Mais regardez le dalal de ce Khawarij. Contre qui? Qui? Les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, radiallahu anhum, wa radu an. Vous connaissez les textes en éloge des, hein, sur la préséance des Sahaba. D'accord? Cheikh Ali, ce ne fut que quelques heures, ils furent exterminés, Allah reposa alors les musulmans de leur mal. Et avant cela, ils s'étaient rebellés contre le Farouk, Omar radiallahu anhum. Ils l'ont tué ainsi qu'un groupe avec lui. Ils se sont rebellés contre le troisième calife, Othman ibn Affan, qu'Allah l'agré. Ils l'ont tué. Et le récit est connu et célèbre comme le soleil à l'heure du midi, le Cheikh dit. Et puis le Cheikh dit, qatalahumullahu anna yufakun, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Puis ils se sont ensuite rebellés sous la dynastie Omeyyad, puis sous la dynastie Abbaside. Mais leur affaire est comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'une génération monte, Allah la coupe. Authentifié par Cheikh al-Albani dans ses silat ahadith sahiha. C'est-à-dire chaque fois qu'une génération de Khawarij monte, Allah la coupe par les mains de ceux qu'il veut parmi ses serviteurs. Et lorsqu'il fut dit à Ali, qu'Allah l'agré, grand bien te fasse, tu les as anéantis. Il répondit, ils sont dans les lombes des hommes. D'accord? Aslab. Ce mot-là, il va dire, mibayni, sulbi, wa taraib. Les lombes. Ils sont dans les lombes des hommes et dans les matrices des femmes. Jusqu'à ce que le dernier d'entre eux sorte avec le dégel. Et si l'affaire est comme tu sais, alors le mal des Khawarij est immense et leur malfaisance est énorme. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a incité la communauté à les tuer et les combattre et à les inspirer, les trouver, afin de les exterminer comme ont été exterminés le peuple d'Aad et Thamoud. Et sans raison de la sévérité de leur mal et de leur malveillance, ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu. Il se peut que les mécréants soient plus probes qu'eux en termes de meurtre qu'eux. Si vous voyez comment ils ont massacré certains parmi les salafs, et comment ils massacrent encore des gens au jour d'aujourd'hui, yani, c'est des gens, c'est des barbares. Il a dit, le cheikh, il dit, quant à eux, s'ils vainquent leurs protagonistes, ils les tuent de la pire des manières, comme ils l'ont fait avec Abdullah ibn Khabbab. D'accord? Et sa servante, lorsqu'ils l'ont égorgé, et comme un mouton, ils ont éventré sa servante qui était enceinte. Et ça, ça doit rappeler certains de nos frères algériens, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Ça s'est passé au jour d'aujourd'hui, là, je crois. Les fatawas de qui, hein? Abu Qatada. Hein? Munrous al-Dalal. Abu Qatada, qui était chinois à Londres, il est extradé il n'y a pas longtemps, hein? Qui a fait une fatwa. Qui a fait une fatwa. Sur, elle est, moi je l'ai en copie, etc. Une fatwa sur l'autorisation de quoi? D'égorger les femmes et les, de tuer les femmes et les enfants, que ça faisait partie du jihad, etc. Regardez comment. Le fatwa avec le hawa, avec le dalal. Et à quoi ça amène le fitna dans les pays des musulmans. Et parmi les gens qui ont été le seul, bi'idnillah, que la fitna s'est beaucoup éteinte en Algérie, c'était les machères, comme Cheikh Rabi et Cheikh Al-Uthaymin. D'accord? Qui ont débattu avec les omaras de soi-disant le jihad là-bas, le khawarij là-bas à l'époque. Et Cheikh Rabi, il a des mots très durs envers eux. Il leur a dit de lui demander maintenant, il fallait demander avant de faire la fitna. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables du sang qui a coulé. Mais imagine-toi que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala et tu as du sang d'un musulman sur tes mains. Alors qu'en est-il de un, de dizaines ou de centaines ou de milliers? Sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, la fitna, faut faire attention, faut pas se précipiter. Il y a des jeunes qui se sont précipités à l'époque en Algérie parce que ils ont menti sur l'ulama. Ils ont distribué des tracts comme quoi les ulama ont dit c'est jihad, jihad, etc. Ils sont vite montés. Faut pas être rapide. Dans le fitna, faut revenir au ulama. Faut pas se laisser avoir. Et de même, les actions de ces déviants de nos jours, surtout en Arabie Saoudite, nous rappellent ces ignobles actes envers les nobles compagnons et les illustres savants. Est-ce que vous vous rappelez, Ikhwa, de ce qui s'est passé à l'Haram al-Mekki? Peut-être que Ammi ici, ou peut-être que les anciens ici, en 1400 de l'Hijr, ça fait combien d'années? 34 ans. Le premier jour de Muharram de 1400, le premier jour du premier mois du nouveau siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Prise d'otage à la Mecque, Al-Juhayman. Vous vous rappelez, vous savez ça ou pas? Hein? C'était l'aqidah de ces gens-là, quoi, la Mecque. Ils ont pris en otage le Haram le Mekki, en disant qu'un d'entre eux c'était le Mahdi pour lui prêter allégeance. Pendant longtemps. À tel point que les forces spéciales saoudiennes, elles ont pris l'assaut de le Haram, ils ont repris le Haram. Vous savez ça ou pas? Fitnat al-Juhayman, on l'appelle. Et l'ulama avec des haut-parleurs, ça leur faisait nasiha. Les gens, ils ont été interdits de prier dans le haram pendant un certain temps. Il y en a, ils ont été pris en otage. Il y en a, ils sont morts. Il y a pas mal de soldats saoudiens qui sont morts, rahmatullah alayhim. Le Juhayman. Alhamdulillah, il a été jugé et exécuté en Arabie Saoudite. Il y a 34 ans, le haram, le Mekki, le haram. Est-ce que vous connaissez une mosquée plus sacrée que le haram? Le Mekki? Hein? Ils sont rentrés, vous savez comment ils sont rentrés dans le haram? Ils sont rentrés avec des civières pour Janaïs. Comme si c'était Janaïs, mais ils étaient pleins d'armes. Ils sont rentrés, ils ont pris en otage le haram, le Mekki. C'est quoi qui les a amenés ça? À ça? Dalal, le hiraf, la déviation. Et demain, les actions de ces déviants de nos jours, surtout en Arabie Saoudite, nous rappellent ces ignobles actes envers les nobles compagnons et les illustres savants. Avec ça, on pouvait encore parler de l'Qadariya, on pouvait encore parler de l'Mu'tazila, de l'Jahmiya, d'autres groupes, de Shia, etc., qui sont apparus. Mais on n'a pas le temps. Inch'Allah, vous trouverez les notes sur notre site, Inch'Allah ta'ala. Encore une fois, je vous remercie pour l'accueil et pour surtout les responsables de la mosquée qui nous ont permis de pouvoir parler ici, qu'Allah les récompense en bien et les préserve. Et que les frères qui ont pu nous permettre de venir ici pour leurs bons soupçons. Jazakum Allah khairan. Et astaudi'ukum Allah alladhi la tadi'u wa da'i'u. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous à lui de tout péché et travaillez comme des frères en Allah azza wa jal à montrer cette religion sous son meilleur jour à tout le monde, aux non-musulmans et aux musulmans même qui n'ont pas compris nécessairement bien leur religion, etc. Et travaillez toujours dans le sens du bien. Et soyez des portes vers le bien et pas des portes. Et ne soyez pas des portes vers le mal. D'accord ? والله أعلم وسبحان ربي بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك